Robotique, intelligence artificielle, allons-nous bientôt être remplacés par des machines? C'est la grande question de cet épisode de Détour vers le futur.
C'est le pitch de nombreuses séries et films de science-fiction. Des robots qui prennent de plus en plus de place dans nos vies quotidiennes jusqu'à nous remplacer, y compris au travail. C'est aussi une réalité que vont devoir affronter plus de 200 salariés d'une entreprise de veille médiatique qui vont être remplacés d'ici juin 2024 par un programme d'intelligence artificielle. Et si une autre voie était possible, celle de la collaboration entre les humains et les robots?
C'est ce dont nous allons parler avec nos deux invités. Le premier s'appelle Bruno Wattier, il est biomécanicien, c'est-à-dire spécialiste du mouvement humain, prof à l'université Paul Sabatier à Toulouse et chercheur au sein de l'équipe Gepetto du LA CNRS. Bonjour Bruno.
Bonjour.
À vos côtés, nous accueillons Yann Ferguson. Vous êtes sociologue, spécialiste des mutations du travail liées notamment aux innovations technologiques. Vous êtes directeur de recherche du laboratoire Labor IA à INRIA, un labo de recherche sur l'application de l'intelligence artificielle au travail. Bonjour Yann.
Bonjour.
Alors pour démarrer cet épisode, je vous propose un retour de 50 ans en arrière à travers cet archive sonore que nos amis de l'INA nous ont retrouvé. Il s'agit d'un extrait de l'émission Futur, au pluriel, diffusée le 17 mai 1971, qui s'intéressait aux recherches en cybernétique, Marina.
Et oui Laurent, nous voici ici plongés à l'Institut Michael Pupin à Belgrade avec un reportage sur le bras artificiel.
Comme nous essayons d'approcher des possibilités d'un bras humain autant que cela nous est possible, il fallait que nous construisions quelque chose qui soit similaire au bras humain.
Mais être similaire au bras humain, est-ce que cela veut vraiment dire avoir des possibilités similaires?
C'est-à-dire oui, dans un certain sens. Parce que, vous savez, si vous voulez approcher des possibilités d'un bras humain, il n'y a pas de meilleure voie que de suivre l'exemple donné par la nature.
Ainsi, Monsieur Gavrilovitch, vous appelez cela un bras artificiel?
Oui, c'est un bras artificiel qui présente une similarité avec le bras humain.
Alors, comment fonctionne-t-il, ce bras?
Eh bien, nous pouvons faire n'importe quel mouvement avec ce bras, en agissant directement sur chaque articulation.
Oui, mais si on doit agir sur chaque articulation l'une après l'autre, on va mettre à peu près un an pour réaliser un mouvement un peu compliqué.
C'est vrai, réaliser un mouvement précis de cette manière se révèle vite impossible.
Alors, Bruno Wattier, est-ce que 50 ans plus tard, aujourd'hui donc, on y est arrivé? Est-ce qu'on sait fabriquer des bras artificiels ou des robots qui sont capables de bouger comme des humains?
Alors, aujourd'hui, il y a de nombreux bras manipulateurs que vous pouvez voir dans les grandes entreprises très industrialisées, comme l'automobile, vous en avez certainement vu. Ces robots, en effet, on pourrait s'approcher de ce qu'on appelle du biomimétisme, c'est-à-dire l'inspiration du vivant pour construire des machines. Ces bras manipulateurs ont les mêmes articulations qu'on pourrait voir l'épaule, le coude, le poignet. Pour autant, de ce que vous pouvez voir, vous ne verrez pas d'hommes approcher ces bras manipulateurs aujourd'hui dans l'industrie, parce que ce sont des bras qui sont excessivement puissants, très forts, et qui sont susceptibles de générer des grandes pathologies en cas d'interaction directe avec les sujets humains.
Oui, c'est dangereux, c'est ça que vous voulez dire?
C'est
dangereux parce qu'ils sont très forts, mais ce n'est pas dangereux parce qu'on ne peut pas les contrôler?
Alors, c'est comme, vous savez, les véhicules autonomes, par exemple, il y a eu quelques exemples d'accidents malheureux. Oui, un bras manipulateur, on sait les contrôler, et d'ailleurs de mieux en mieux chaque jour, mais on n'est jamais à l'abri d'une casse matérielle, d'un objet qui tombe, comme pour un humain, finalement, d'ailleurs, à ce titre-là. Il y a des erreurs. Et ces erreurs, ou même votre voiture, très probablement, ça lui arrive de tomber en panne, et bien un bras manipulateur, c'est pareil. Et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc aujourd'hui, l'interaction physique directe entre les robots et les humains sont interdits dans les systèmes industriels.
Et donc ces robots, ces bras articulés, est-ce qu'ils s'inspirent du mouvement humain? Parce que vous parliez de biomimétisme, on l'entend dans le reportage d'il y a donc 50 ans, ils voulaient recopier le mouvement humain. Est-ce que vraiment c'est ça qui l'inspire? Est-ce qu'on fait ça? C'est ça le principe?
Ça c'est une excellente question, puisque le mouvement humain, comme cela a été présenté en début d'émission, c'est en effet une des spécialités que je développe depuis quelques années maintenant, vu mon âge canonique, ça fait plus de 20 ans que j'étudie le mouvement humain. Eh bien, dès qu'on pense avoir compris comment fonctionne le mouvement humain, eh bien, on a toujours un individu qui fonctionne différemment. C'est ce que l'on appelle la redondance, qui fait que un geste donné peut être réalisé d'une infinité de façons différentes. De facto, imiter le mouvement humain, oui. Les mouvements oui. humains,
lequel, ouais.
Vous, avec moi, voilà, vous ne réaliserez pas un geste donné de la même façon. Et donc, quand on fait collaborer un robot avec un humain, donc on a étudié ces collaborations mm-hmm. humain-humain, eh bien, on voit qu'il faut, il faut complètement être s'apparier avec le sujet que vous avez avec vous. Mm-hmm. Et un robot, il a tendance à travailler de manière un petit peu toujours la même. Donc, c'est ce que l'on...
Il n'improvise pas.
C'est ce que l'on essaie de faire. On y reviendra peut-être.
On va y revenir. Parce que juste là, je voulais voir, on discute du bras. Mais est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à l'humain et le robot humanoïde en entier ? C'est-à-dire qu'on a dit, on veut reproduire un mouvement du bras, donc il y a 50 ans. Donc aujourd'hui, on peut considérer qu'on y arrive à peu près. Est-ce qu'on arrive à reproduire le mouvement d'un humain en entier ? C'est-à-dire un robot qui marche avec ses deux bras, sa tête. On voit ces robots humanoïdes, des fois, dans les médias. Aujourd'hui, ça y est, c'est quelque chose que vous considérez comme acquis ?
Alors, la génération de la marche sur les robots humanoïdes, c'est quelque chose qui semble être en passe d'être maîtrisé malgré l'instabilité inhérente à des systèmes qui ont, sans entrer dans des détails techniques, des centres de masse assez hauts, et donc qui sont, par essence, instables. Donc ça, c'est un problème qui, en effet, la marche, la locomotion seule, semble résolue.
D'accord. On peut monter des escaliers, on peut descendre des escaliers, on peut courir, on peut ralentir, on peut...
C'est cela, mais...
c'est un petit c'est cela.
Non, l'une des difficultés, après, c'est la perception temps réel. S'il y a un obstacle, vient se glisser sous le pied, un petit gravillon sous le pied du robot ou quelqu'un qui lui passe devant, un enfant, par exemple, et bien, il faut s'arrêter et s'arrêter dans des conditions sécurisées. Il ne faut pas que l'inertie le fasse tomber sur l'enfant. Il faut pas que... Donc, il y a, si je vous dis, la marche sur sol plat avec personne devant, voilà, ça, c'est un problème qui est résolu. Mais tous les problèmes de perception, l'homme est une machine incroyable de perception de son environnement que n'ont pas encore tous les robots, malgré le nombreux capteurs qui sont embarqués. Et pour terminer sur ce point, un homme, il a 200 rotations possibles au niveau de ses articulations. Aujourd'hui, les meilleurs robots ont 38, 40. Donc on est quand même bien en dessous. Et ces robots-là, ils ont autant de moteurs que d'articulations.
Wow.
Alors qu'un individu humain, il a 600 muscles pour 200 articulations. Donc on a un système qui est beaucoup plus robuste. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui ont pu avoir quelques pathologies, je ne sais pas, une entorse par exemple, il n'y a pas 10 minutes que vous l'êtes faite que vous trouverez un moyen quand même de marcher en utilisant les autres muscles, les autres articulations du système. Et ça, on n'a pas de redondance pour ces robots humanoïdes.
Alors Yann, les robots, donc on en a vu dans les usines, on en a vu des fois dans les bureaux. Ça fait déjà plusieurs années qu'on voit ça. Est-ce que vous avez étudié ça, vous, dans vos sujets de recherche en sociologie ? Qu'est-ce que vous en avez ressorti ? Qu'est-ce qui ressort comme grand trait sur cette cohabitation ?
Ce qui ressort, d'abord, c'est que c'est pas encore, c'est très très loin d'être naturel. C'est-à-dire que il y a encore une espèce d'excès marketing qui consiste à présenter les robots, les machines, les systèmes d'intelligence artificielle au titre de collègues. Voilà, et on va dire, voilà, ça va être le nouveau collègue. Effectivement, ça semble être une manière rassurante de présenter une machine inquiétante, de dire, mais non, ne vous inquiétez pas, c'est pas la machine, c'est pas Terminator, c'est pas, ça va pas vous blesser, c'est un collègue. Sauf que c'est très très loin d'être un collègue, au-delà du fait que c'est pas un être humain, les interactions se font d'une part de façon totalement différente. On a beau chercher à développer un langage naturel, non seulement peu de machines parviennent à développer ce langage naturel, mais en plus, pour l'instant, on ne sait pas faire une machine qui, quand bien même aurait l'air d'avoir un dialogue naturel, comprendrait ce qu'elle raconte. C'est ce qu'on appelle le problème de l'ancrage du symbole, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'association entre le signe et la chose. Et donc, ça amène à des fois à des contresens ou à des manières de s'exprimer qui sont un peu déroutantes. Voilà. Ensuite, lorsqu'on a évacué un peu la tentation de faire un robot collègue, entre guillemets, un peu généraliste, avec qui on a des échanges, etc., on essaie d'aller vers des outils un peu plus spécialisés qui vont venir tantôt faciliter une tâche, qui vont venir tantôt permettre de la déléguer, c'est-à-dire déléguer une tâche dite répétitive et qui permettrait derrière de se concentrer sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. eh bien, lorsqu'on se confronte au monde réel, ce qu'on appelle le travail réel, qui a des caractéristiques, c'est-à-dire le travail réel, c'est ce que l'on fait vraiment. Le travail prescrit, c'est ce qui est décrit dans la fiche de poste, c'est ce qui est décrit, ce sont les instructions que vous recevez. Et en fait, on sait depuis longtemps en sociologie du travail que non seulement les collaborateurs font autre chose que ce qu'on leur demande de faire, mais que s'ils se contentaient de faire ce qu'on leur demandait de faire, ce qu'on appelle la grève du zèle, ça ne marcherait pas. Et donc, on leur met des machines qui parfois ont été conçues par rapport à une vision prescrite du travail et qui leur fait des propositions, les machines leur font des propositions qui génèrent cet écart justement entre le travail prescrit et le travail réel, et parfois ce qu'on va appeler des conflits de rationalité, c'est-à-dire l'être humain, avec son intuition et son expérience, pense que la bonne réponse est celle-ci, c'est ça qu'il convient de faire, et la machine a été entraînée sur une base de données qui correspond davantage au travail tel qu'il est pensé, tel qu'il devrait être fait dans l'imaginaire des ingénieurs qualité, etc.
Est-ce qu'on peut avoir un exemple de ça, d'une expérimentation réussie ?
Oui, alors je peux donner un exemple justement dans la cobotique, dans lequel on avait associé un petit module d'IA. C'était dans l'industrie agroalimentaire, chez des laborantines, qui avaient pour mission de tester la présence de bactéries dans les yaourts. Voilà. Et il y a un certain nombre de tâches répétitives, amener les caisses, déplacer les pipettes, etc. Et on avait mis un cobot, donc un de ces bras qui sont supposés évoluer non pas dans des cages parce qu'elles sont dangereuses, mais qui sont supposées avoir suffisamment de perception pour ne pas blesser les êtres humains qui tournent autour. C'est tout le sens du cobot, c'est de lui sortir de la cage. Et donc, on a effectivement créé un atelier qui permettait l'action, et puis les laborantines en étaient satisfaites. Sauf qu'on s'est retrouvé face à la difficulté d'un bureau de certification du poste qui ne savait pas certifier un cobot. C'est-à-dire qu'en fait, il a dit, je ne sais pas faire si jamais la laborantine trébuche, se blesse sur la machine, même si ce n'est pas la machine qui lui met un coup dans la figure, elle se blesse, je ne sais pas faire. Deuxième chose...
Il n'y a pas de case qui correspond
exactement
à ce cas-là.
Et la deuxième chose, c'était que personne ne voulait prendre la responsabilité d'une erreur potentielle de la machine. Donc, au final, quelqu'un a dit, ok, je prends la responsabilité, donc on avait réglé ça, mais le cobot, on a été obligé de le mettre dans une espèce de showroom. On a été obligé de l'éloigner des laborantines qui pourtant en voulaient, mais je dirais la règle de droit, la règle de sécurité au travail n'a pas suivi.
Alors pour revenir justement au cobot, puisque c'est votre sujet de recherche, Bruno Wattier,
C'est même le nom du projet de recherche.
Donc expliquez-nous en quoi a consisté ce projet, puisque l'idée c'est de faire collaborer une machine, un robot, avec un humain.
Absolument. Ben, on a essayé de faire un projet interdisciplinaire, puisque inséré dans l'équipe Gepetto, moi je suis spécialiste de biomécanique et du mouvement humain, et puis mes collègues roboticiens, eux, développent des systèmes complexes en l'état des robots humanoïdes. Et donc on s'est en effet posé la question de savoir si on était capable d'effectuer des tâches de manutention qu'on ne peut pas effectuer seul. Donc il s'agissait dans ce projet de transporter une table, une grosse table, comme celle qu'il y a ici dans cette salle. Et ça, c'est quelque chose que vous ne pourriez pas faire tout seul, faire franchir la porte. Donc on a imaginé de faire ça en interaction entre un sujet humain et un robot humanoïde.
Un binôme mixte.
Un robot déménageur.
Un robot déménageur. Notez qu'on n'a pas osé prendre le piano, mais on s'en est arrêté à la table, et ça a été déjà une gageure importante, puisque si je vous raconte les détails du projet...
Alors oui, pourquoi c'est difficile ? Ça a l'air tout bête comme ça, quand vous l'énoncez, on se dit, bah oui, il suffit de faire hop, et puis on avance.
Puis
Et voilà.
Et alors, c'est compliqué, parce que c'est ce que je vous disais au début, tout d'abord. C'est que, d'abord, on a commencé par étudier le comportement de deux sujets qui transportaient la table.
Deux sujets humains.
Et on s'est aperçu que lorsqu'ils transportaient la table, chacun passait par des trajectoires qui pouvaient être complètement différentes. Et on s'est aperçu aussi que quand vous avez une table, c'est symétrique, vous pouvez la poser dans un sens ou dans l'autre, peu importe, elle a bien atteint sa destination finale. Ce qui était étonnant, c'est que les mêmes binômes, on leur demandait de faire plusieurs fois, une fois c'était dans un sens, une fois c'était dans l'autre, bref, à n'y rien comprendre, les spécialistes de contrôle optimal s'en arrachent les cheveux, puisque d'ordinaire, on a tendance à penser que
eu égard à l'optimisation, on a tendance à choisir finalement la trajectoire ou le moyen d'y arriver qui va nécessiter le moins d'énergie,
le moins de temps.
Ça rejoint l'idée du travail normé et du travail réel qu'expliquait Yann. Hein,
c'est ça. Absolument. Et in fine, donc. Deux sujets, deux paires de sujets différentes. C'est pas du tout les mêmes trajectoires, c'est pas du tout la même position finale, c'est pas les mêmes vitesses de transport. Mais au final, tout le monde quand même réussit à cette tâche-là. C'est-à-dire tout le monde arrive précisément à la destination finale. Alors ça, c'était quelque chose qui avait déjà été observé par dans les années 30, 1930, par Bernstein, un Russe, qui avait montré que lorsque on tapait avec un marteau, on réussissait toujours la tâche, alors même que les segments, eux, ne suivent pas toujours la même trajectoire. Il y a de très belles vidéos en ligne de l'époque. Et bien là, c'est pareil. Quand on transporte une table à deux, on arrive, tout le monde choisit sa trajectoire et on arrive toujours à la bonne position. Alors, le problème, c'est qu'est-ce qu'on dit au robot ?
Lui, il est perdu. Il sait plus à quel humain se vouer.
Alors, au début, on s'est dit, c'est pas très grave, on va lui faire suivre la trajectoire moyenne. Alors, c'est pas mal, mais des fois, c'était quand même à 1m50 de l'endroit où il aurait dû être. Donc, la table, on ne sait plus qui la tient, finalement. Soit c'est lui tout seul, soit c'est le sujet tout seul. Et puis, c'était les développements robotiques d'il y a une quinzaine d'années, maintenant, où on mettait le sujet humain au service de l'homme. Moi, quand je suis arrivé, j'ai dit...
Au service du robot.
Quand je suis arrivé dans l'équipe GPTO, j'ai dit, il faudrait quand même faire plutôt des robots au service de l'homme. C'est quand même mieux, sinon... Sinon, vous n'aurez pas de volontaires pour aller aider des robots, ça n'intéresse personne. Et justement, c'était toute la question. Du coup, comment on fait pour générer une trajectoire qui s'adapte en temps réel aux priorités du sujet humain ? Et donc, c'est là que rentrent en considération toutes les techniques récentes de robotique consistant en effet à percevoir un certain nombre d'éléments de la cinématique du mouvement du sujet humain en temps réel, et ce sur une fenêtre glissante, ce qui nous permet de projeter dans l'avenir ce qu'il veut faire et donc de donner une réponse proactive au robot, de sorte à ce qu'il puisse anticiper le mouvement humain et donc se positionner au fur et à mesure, même presque en avance, sur ce que le sujet humain, de manière personnalisée, compte faire.
Donc, en gros, on lui demande de décoder les petits signes, les petits éléments, les petits gestes, les mouvements des yeux, peut-être même, de l'humain, pour pouvoir s'adapter et se caler par rapport à ça.
Alors, observer l'humain très finement, alors.
Absolument. C'est ça, parce que c'est assez complexe, parce que ça nécessite que le robot ait des systèmes de perception visuelle pour qu'il puisse voir le sujet humain et voir son passé récent, qu'il puisse le stocker, le magasiner, faire un calcul pour dire puisqu'il a été là, puisqu'il est passé par là, très probablement ça veut dire qu'il va par là. Ça fonctionne bien, ça fonctionne très très bien même. On a été excessivement surpris des résultats que l'on a obtenus. Mais c'est ça nécessite quand même énormément de systèmes. D'abord, un robot humanoïde.
C'est ça.
Une table,
qui tient debout.
Une table, plus facile à trouver.
Est-ce qu'on peut dire que le robot apprend ? Est-ce qu'il y a de l'intelligence artificielle dans ce robot ou pas ? Ou c'est simplement des systèmes de calcul très rapides ?
C'est une bonne question. J'aurais peut-être pas forcément de réponse. Il apprend dans le sens où, comme il va avoir une réponse personnalisée à un individu qu'il ne connaissait pas, on peut dire qu'il apprend à connaître cet individu. Mais la réponse qu'il a, elle est contenue dans un certain nombre de fonctions qu'il analyse chez le sujet humain. On parlait de sa trajectoire, du centre de gravité, enfin un certain nombre de paramètres. Et ça, par contre, ce nombre de paramètres qu'on lui fait observer est figé actuellement. Si demain je veux rajouter un paramètre ou deux, je pourrais le faire. Mais à un instant T, ce nombre de paramètres observés est figé. Donc, de facto, il n'est pas capable d'aller observer des paramètres qu'on n'aurait pas analysés jusqu'à présent. Alors, pour le sujet sain, on pense que l'on a quand même trouvé l'essentiel. Mais si, naturellement, vous avez un sujet pathologique qui ne fonctionne pas tout à fait de la même manière, là, ça va devenir plus compliqué d'imaginer. On peut penser avoir oublié, dans ces cas-là, des paramètres qui seraient importants à prendre en compte.
Mais du coup, est-ce qu'il a l'habitude de travailler toujours avec le même humain ? C'est toujours son même binôme ? Ou est-ce qu'il peut changer de binôme n'importe quand et d'humain n'importe quand ?
L'intérêt, c'est de changer, d'humain.
Et sur Cobot, vous avez déjà réussi à aller jusque-là.
C'est ça, exactement. On a tout à fait simulé, généré des mouvements en interaction avec
des sujets qui ont des comportements dynamiques différents.
Donc si Yann, Laurent ou moi essayons de transporter la table avec le robot, il va s'adapter.
Je vous accueille avec plaisir au laboratoire.
On va tester ça.
Il est vrai que nous sommes dans des Algeco actuellement et nous devons réaménager très prochainement. Donc il y aura certainement des tables à porter.
Et est-ce que vous avez aussi regardé du côté de la réception chez l'humain ? C'est-à-dire qu'est-ce que ça lui fait à l'humain de travailler avec un robot qui s'adapte à lui, qui finalement va au bon endroit ? Est-ce que vous avez un retour là-dessus ?
Alors, finalement, ça serait plutôt à mon collègue oui. de répondre
après
à cette...
Après, on posera la question.
De répondre à ma question. Bon, après, l'acceptabilité des robots dans l'industrie, c'est quelque chose maintenant qui a été assez bien étudié. Et tout laisse à penser que si quand même on veut une meilleure acceptabilité, il faut que ça ait un comportement qu'ils appellent anthropomorphique. Donc, on voit bien un petit peu l'idée. Et au plus on se rapprochera de la... de capacité de comportement dynamique d'un sujet humain, enfin de son propre comportement hein, d'ailleurs, et bien plus facilement on l'acceptera. Mais par contre, j'avoue que les études sont biaisées parce que bien souvent nous prenons comme sujet d'expérimentation nos collègues de laboratoire, nos étudiants,
ceux qui sont sous la main,
à côté. voilà. Donc c'est pour ça que je vous invite à venir parce que ça nous ferait du sang neuf. Mais c'est vrai que bon, de facto, l'étude est biaisée. Et puis
ok à les savoir, ça, avec tout le public, ça pourrait
être. Ah oui, si vous avez besoin d'une grande cohorte, on peut vous trouver ça.
Avec plaisir.
Alors Yann, vous travaillez en sociologie du travail. Vous avez annoncé différentes typologies de relations entre l'humain et le robot, dans la relation de travail. Est-ce que là, les relations qu'on évoque avec le fameux projet Cobot, ça nous oriente vers des humanisations, des déshumanisations ?
Oui, alors j'avais proposé cette typologie il y a quelques années pour classer un peu les grands scénarios, puis aussi d'études, et puis aussi les grands imaginaires, hein, parce que les deux se combinent souvent en matière de robots et d'intelligence artificielle. Donc évidemment, j'avais parlé de travailleurs remplacés, hein, cette idée que massivement les machines remplaceraient les humains. Et puis il y avait des articles en 2013 qui disaient 47% des emplois américains se situent dans une probabilité haute d'automatisation d'ici 10-20 ans. Ça avait créé une espèce de panique morale. C'est pas à chaque période hein, d'automatisation, même avant l'intelligence artificielle, ce type d'imaginaire et de peur avait été s'était exprimé. J'avais mis le travailleur dominé aussi, c'est-à-dire l'idée le travailleur conserve un emploi, mais il est asservi à une machine qui commande et puis lui, il exécute. La troisième figure un peu dystopique, c'était ce que j'avais appelé les travailleurs divisés. C'était l'idée que il y aurait une élite très complémentaire de l'intelligence artificielle qui bénéficierait énormément dans leur carrière, dans sa carrière de ces avancées technologiques. Et puis la masse serait plutôt du côté de la domination et la fragilisation des emplois de classe solide, de classe moyenne, comme on dit. Et puis du côté plus positif, il y avait l'humanité augmentée, le travailleur augmenté. Alors il est augmenté parce que y a des systèmes qui généralisent sa performance, que j'avais appelé l'augmentation rationalisation. Il est augmenté parce que il y a des machines qui prennent les tâches à faible valeur ajoutée pendant que lui gagne en valeur sur les tâches à forte valeur ajoutée. J'avais appelé ça l'augmentation délégation. Il y avait aussi, il augmentait parce que la machine l'aide à faire des choses qu'il ne peut pas faire par limitation. Donc j'avais appelé ça l'augmentation remédiation. Et puis je pense que ce qu'évoque Bruno, c'est ce que j'ai appelé l'augmentation coopération, c'est-à-dire c'est le 1 plus 1 égale 3. C'est l'idée qu'il y a une association qui est supérieure à la somme des parties. Voilà. Et puis enfin, j'avais évoqué de façon peut-être plus prosaïque le travailleur réhumanisé. Pourquoi ? Parce que ce que j'avais noté dans tous les rapports qui sortaient sur l'intelligence artificielle, c'était que à travers l'exploration de ce que la machine peut faire, il y avait aussi une réflexion sur ce qu'est l'humain. Voilà, qu'est-ce que c'est l'humain ? Et d'ailleurs, depuis le début, dans la robotique, je vous rappelle que robot, ça vient de robota, qui veut dire corvée, qui dans la pièce de Karel Čapek, les robots font des corvées et pour les rendre moins humains, parce que ce sont des robots humanoïdes pour le coup qui sont presque méconnaissables, on leur a enlevé quelques propriétés, d'abord parce qu'elles sont considérées comme non productives et ensuite parce qu'on les considère comme trop humanisantes. Et ces propriétés, dans la pièce de Čapek, sont le goût pour la musique, avoir une enfance, voilà, aimer les promenades, voilà, toutes ces choses-là qui font de nous des humains et qui ne seraient pas, permettraient pas la distinction entre l'humain et la machine. Et donc, ce que dit l'argumentaire du PDG de Roure dans la pièce de Capex, c'est de dire nous allons pouvoir nous concentrer sur ce qui est vraiment notre humanité. Voilà, l'art, la réflexion, la philosophie, la musique, et tout ça, c'est le réellement humain. Et donc, c'est ça qui m'avait fasciné, moi, en tant que sociologue, dans toute cette littérature, c'est finalement ce qu'on appelle en philosophie le retournement feuerbachien, c'est-à-dire le Feuerbach avait dit l'homme a créé Dieu et ensuite dit que Dieu l'avait créé. Eh bien, finalement, c'était nous créons la machine et nous la regardons, et à travers la machine, nous explorons les contours de notre humanité.
Oui, il y a des grandes utopies de science-fiction là-dessus. Je pense au cycle de la culture de Ian Banks qui imagine un futur dans lequel les humains ne feraient plus rien puisque les machines feraient tout le travail pour eux et eux, ils se consacreraient à la poésie, à l'art, à l'amour. Ça peut faire rêver. Alors, ce qui fait un peu moins rêver, Marina, ce qu'on a constaté sur les réseaux sociaux, c'est que tout ce que vous êtes en train de décrire, ça s'appelle aussi l'industrie 4.0 ou 5.0. Donc, on a fait une petite recherche là-dessus et on peut dire que ça discute quand même assez sévère sur les réseaux, notamment sur la collaboration ou le remplacement des travailleurs par les machines. Et tu as relevé, Marina, notamment des petits coups de gueule à propos de l'industrie 5.0.
Alors effectivement, le concept d'industrie 5.0, ça questionne, ça fait réagir, notamment sur les réseaux comme X, donc ex-Twitter, pour ceux qui ne l'en connaissent pas encore. Alors, j'ai noté notamment dans la question vraiment liée à l'emploi des tweetos, donc une personne qui s'appelle Yenamar, donc je vous laisse apprécier le jeu de mots, qui met « On attend avec impatience les emplois créés par l'industrie 4.0. On sait que l'industrie tout court a quitté le pays. » Et Nunu lui répond « Les emplois 4.0, ce sont bien les emplois qui sont accessibles aux classes ouvrières, point d'interrogation, ou faudra-t-il un bac plus 15 ?»
Alors, c'est quoi la différence entre l'industrie 4 ou 4.0 et l'industrie 5.0 ?
Parce que c'était déjà une réponse à un tweet sur le 5.0.
Ça. Alors, il y a toute une nomenclature, et puis on a plusieurs, mais c'est vrai que c'est celle qui est un peu retenue. Le 1.0, c'était la conversion de l'énergie musculaire en une énergie non musculaire. Le 2.0, c'était l'électrification. Le 3.0, c'était l'informatisation. Et le 4.0, c'est les systèmes cybernétiques, c'est-à-dire c'est la rencontre du virtuel et du réel. En fait, ce sont des programmes qui commandent des machines. Seulement, à un moment, on a trouvé ça un peu raide et un peu sec, et on a dit on va faire le 5.0. Et en fait, le 5.0, c'est le 4.0 centré sur l'humain. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, et pour répondre au X, si on regarde la dernière étude de l'OCDE sur le futur du travail au temps de l'IA, eh bien, cette étude, 2023, dit clairement que les métiers les plus exposés, ce sont les bac plus 15. Voilà. Et Alia. Et les moins exposés sont ceux qui justement butent sur la corporéité, c'est-à-dire tous les métiers qui engagent le corps. Aujourd'hui, l'IA, elle a beaucoup moins progressé sur des métiers qui pourraient être assimilés à, d'ailleurs c'est ce que dit le rapport de l'OCDE, éboueur, nettoyage industriel, etc. Et elle a beaucoup plus progressé sur 3 postes qui étaient considérés encore il y a 10 ans comme absolument pas exposés à l'IA: direction d'entreprise, management et ingénieur. Et l'OCDE s'est basé sur un indicateur à partir de la maturation de l'IA sur les années 2010-2015. Donc, on n'est même pas encore à l'IA générative, puisque l'IA générative, ça démarre avec 2017 et puis après ChatGPT et d'autres maintenant, évidemment. Mais 2010-2015, l'IA a davantage progressé en matière de ce qu'on peut assimiler à des compétences de dirigeants et d'ingénieurs que à des compétences d'opérateurs.
Oui, c'est un de vos collègues, Bruno, qui nous avait dit qu'effectivement, avant qu'une IA et un robot soient capables de faire un lit, on avait un peu de marge.
Ah oui, alors absolument. Hein. Les développements de Cobot dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais pas si elles ont fait rêver ou au contraire si elles ont laissé imaginer à certains un avenir des plus sombres. Soyez rassurés. Hein. Et ça, on est tous d'accord dans le laboratoire. Vous ne verrez pas une génération de robots humanoïdes débarquer dans votre bureau, qui, dans votre entreprise ou même à la maison, venir vous servir un médicament, vous lever, vous masser ou que sais-je encore. Non. Vous avez le temps. Vous avez le temps de voir venir longuement.
Bon, il va falloir poster ça sur X, donc, parce qu'on a effectivement même des coups de gueule pour répondre à Laurent. Donc, il y avait un fameux Manu BDX qui met « Industrie 5.0 », point d'interrogation, ça y est, « suis un vieux réactionnaire qui devient allergique à cette surenchère de l'upgrade permanent qui ne sert que la dystopie de masse et des progrès limités d'une élite financière VIP. Ras-le-bol de ces codeurs qui rêvent d'un monde numérisé à 100%. » Donc, on a un peu de marge, donc.
Oui, on a beaucoup de marge, puisque là, on a appris à un robot à porter une table.
Une table.
Bon, maintenant, il va falloir lui apprendre à masser, il va falloir lui apprendre à préparer le café. Et chaque tâche nécessite des développements d'une complexité énorme. Donc, avant d'avoir un robot qui sera...
Par contre, notre boulot.
quelque peu général, bon, on a vraiment du temps.
Oui, c'est ce qui a été théorisé il y a déjà plusieurs décennies. Hein. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de Moravec. Moravec a dit il est beaucoup plus difficile de faire faire à une machine ce qui est très facile pour nous. Mmh. Et il est beaucoup plus facile de faire faire à une machine ce qui est très difficile pour nous. Qu'est-ce qui est très difficile pour nous ? Jouer aux échecs et aux jeux de Go. Les échecs, l'ordinateur a battu le champion du monde en 1996, le jeu de Go en 2016. Faire un lit, ça c'est très facile pour nous. Les gens qui ont ces emplois ne sont pas très reconnus, pas très bien payés. Et pourtant, c'est pas évident. Mais il y a une autre façon d'amener la robotique vers ce geste, vers ça, c'est de changer les chambres. C'est-à-dire que quand on a voulu faire une machine qui fait la vaisselle, on n'a pas fait un robot qui met son petit tablier, se met à l'évier, prend l'éponge et l'assiette. On a inventé une machine qu'on a totalement redéfinie pour faire la vaisselle. Donc si demain, on change toutes les cuisines, eh bien peut-être qu'on pourra remplacer le plombier, mais il faudra que cette cuisine elle soit pensée pour la machine. Et ça sera un peu triste d'avoir tous la même cuisine.
On change le cahier des charges.
Exactement. Alors pour terminer cette émission, je voudrais qu'on se projette un petit peu dans le futur, qu'on parle, pour terminer, des exosquelettes qui sont une forme de robot de collaboration justement très proche du corps. Et pour entamer cette discussion, je vous propose d'écouter notre nouvel épisode de science-fiction qui est intitulé cette fois-ci tout simplement « Debout ».
Je ne me suis pas tenu debout depuis 2 ans.
Ne vous inquiétez pas,
dit la voix du robot kiné. Assis dans mon fauteuil roulant, j'attends sans trop y croire. Un arc en acier équipé d'une batterie de bras articulés me toise.
Veuillez vous détendre.
Ma tête sait ce qui va se passer, en théorie. Mais mon corps abîmé, lui, s'y refuse. Les bras glissent en silence sur leur axe. Je les suis du regard. Plusieurs d'entre eux fondent sur moi et me saisissent par les épaules, soutiennent mon dos et ma nuque. Ils me font basculer, puis me redressent en douceur.
Nous lançons le scan. Restez immobile.
En raison de mon handicap, je ne peux que bouger la tête. Je verrouille les muscles de ma nuque pour éviter tout mouvement intempestif. Une lumière m'éblouit. Elle me parcourt plusieurs fois. Puis les bras commencent à s'affairer. Je monte légèrement. Je pivote. Les premières parties de l'exosquelette sont fixées à mon corps. Elles ont l'apparence du titane. Mes membres et mon dos sont couverts de plaques, de tiges, de filets. Quelques bras articulés se retirent tandis que d'autres me font redescendre. Je reste un moment en suspension à quelques centimètres du sol.
Nous allons vous poser. Vous pourriez ressentir un inconfort.
Ça vibre. J'en déduis que mes pieds ont touché le carrelage.
Nous activons le programme automatique.
Une de mes jambes se lève, puis se pose.
J'ai peur.
L'autre se met en branle.
Mon cœur s'affole.
J'ai l'impression que je vais tomber.
Je suis pris de vertige.
Je marche. Disons plutôt que l'exosquelette me déplace, car pour l'instant je ne contrôle rien. On m'a indiqué qu'il me faudra des semaines pour apprendre à le diriger, et lui aussi s'adaptera peu à peu à mes spécificités. J'évolue dans la pièce. Le malaise s'estompe. Ma main se lève, mes doigts s'ouvrent et se referment avec une fluidité surprenante. Je retrouve des sensations que je n'avais pas éprouvées depuis des années. Et je sais désormais que j'enverrai à nouveau des satellites dans les étoiles. Mon poste de technicien m'attend.
Texte Lee Kam. Voix Corey Mariotto. Sound design et réalisation François Donato.
Alors, est-ce que c'est une vision d'un futur possible du travail où on pourrait augmenter les travailleurs avec des exosquelettes ? Yann, peut-être ?
Bah oui, évidemment, on pense tous à l'intérêt de ces exosquelettes. D'abord pour soulager des travailleurs valides, on va le dire, hein, qui ne souffrent pas d'handicap apparent, mais qui doivent porter des charges, ont des répétitions de tâches mécaniques. Et évidemment, ça peut user le corps. Et puis, on pense aussi à des possibilités que ça peut offrir à des travailleurs qui souffrent de handicap et qui pourraient aller vers des métiers qui seraient... Qui sont pour l'instant leur sont interdits ou en tout cas impossibles. Mais malgré tout, l'être humain il est un peu compliqué. Parfois non. il peut se plaindre du dos et être fier d'être capable d'endurer ses souffrances. C'est-à-dire que mon doctorant David Rodriguez a fait un travail justement sur les osquelettes où il dit que des personnes qui par ailleurs se plaignent du dos, des bras, etc. ont ce qu'on appelle une charge virile dans leur travail, c'est-à-dire une espèce de fierté, de virilité à faire un travail pénible, dur, qui fait souffrir, mais qui sont capables d'endurer sans poser d'arrêt de travail. Et donc ces mêmes personnes qui vont se plaindre par ailleurs vont refuser l'aide de la technologie, non seulement parce que ça va fragiliser ce prestige qui est le leur de pouvoir réaliser ça, mais en plus parce que derrière, ça va diminuer le coût d'entrée dans leur activité. C'est-à-dire si n'importe qui peut faire ce boulot d'homme, qu'est-ce qui me reste ?
Oui, ça touche au sens qu'on met dans son travail, en fait, à l'identité même du travailleur.
Exactement, et c'est vrai pour les exosquelettes, comme c'est vrai pour tous les systèmes machiniques qui, à un moment, vont venir remettre en cause des savoir-faire dont on peut se dire que de l'extérieur, oui, mais ce sont des tâches répétitives, tu vaux mieux que ça, c'est à faible valeur ajoutée, etc. Mais tel que c'est vécu, la représentation peut être totalement différente. Donc il peut y avoir une perception de l'extérieur de celui qui amène la valeur technologique de manière presque prométhéenne, en disant « Regarde, comme je viens te sortir des difficultés, des tâches répétitives, etc. » Et puis derrière, un humain qui dit mais laissez-moi tranquille, je veux assumer ces charges, je veux pouvoir les faire, je ne veux pas passer toutes mes journées sur des tâches complexes à haute valeur ajoutée, ça va m'épuiser, etc. Donc, il y a parfois une rencontre entre une promesse de valeur et une culture professionnelle qui ne se fait pas.
On peut dire aussi que la collaboration entre les humains et les machines au travail, c'est pas juste une histoire de reproduction du mouvement humain, puisque on en parlait en début de cette émission avec vous, Bruno. C'est pas simplement la reproduction du mouvement humain, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est les conditions de travail, c'est l'image qu'on a de soi au travail, l'imaginaire même qu'on met dans le travail. Quelques mots de conclusion peut-être par rapport à ça ?
Absolument. Bon, après, l'optimisme de mon collègue est grande, mais ces systèmes ne sont pas prêts, à l'évidence. Non, mais ces systèmes ne sont pas prêts. L'acceptabilité, c'est bien de l'étudier, mais franchement, on n'est pas en capacité de produire des systèmes qui vont réellement être efficaces, aider et améliorer une tâche donnée.
Tout de suite, dans vos laboratoires, en tous les cas, c'est ce que vous constatez.
Oui, on peut faire des exosquelettes pour des patients tétraplégiques qui n'ont donc plus aucune capacité motrice. Mais dès que vous en avez un peu, la personnalisation du système à l'individu, ça relève encore du rêve. Mais je le souhaite, parce qu'on a beaucoup travaillé sur des enfants atteints de paralysie cérébrale qui ont donc des capacités motrices, mais souvent pas suffisantes. On a pu montrer que leur réapprendre un schéma de marche à l'aide d'exosquelettes permettait de reconditionner le central pattern generator, c'est-à-dire le système de marche, et leur permettait, pendant encore après un mois, deux mois, puis progressivement, comme c'est dégénératif, on finit par perdre ces capacités-là. Mais espérons que ces machines-là puissent, pour certains, les aider à retrouver une locomotion et un peu d'autonomie.
Bien, un petit mot de conclusion ?
Oui, alors c'est vrai que moi, je regarde à quel point, effectivement, ces machines ne sont pas nécessairement prêtes. Mais voilà, le sociologue, la réponse du sociologue, c'est de dire la performance technologique est une condition indispensable, mais non suffisante pour l'adoption. C'est-à-dire que le fait de toujours dire ce n'est pas adopté parce que ce n'est pas performant, de point de vue sociologique, c'est sous-estimer les enjeux culturels d'appropriation, les valeurs, les normes. Oui, il faut que ça marche, parce que sinon c'est un no-go, mais ce n'est pas une condition suffisante pour l'adoption.
Oui, il y a tout un continuum à prendre en compte, et effectivement, ce n'est pas un stop and go.
Donc le grand remplacement, ce n'est pas pour demain. On pourra donc tous et toutes dormir tranquilles sur nos deux oreilles ce soir, grâce à nos invités.
Détour vers le futur, c'est terminé pour aujourd'hui. Un grand merci à nos deux invités, Bruno Wattier et Yann Fergusson, pour vos explications.
Merci à nos partenaires de l'INA pour la recherche documentaire. Retrouvez toutes les références évoquées dans cet épisode sur le site web du Quai des Savoirs.
Détour vers le futur, un podcast préparé par Laurent Chicoineau et Marina Léonard, avec l'aide de Françoise Vissac.
Réalisation Arnaud Maisonneuve, à la prise de son Névic Martorel. Cet épisode a été réalisé en coproduction par le Quai des Savoirs et le CNRS, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. À très bientôt, ciao.